Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre 2021, journée annoncée comme nuageuse dans le Beaujolais par Météo France. Je trouve qu'on profite quand même de belles éclaircies, en tout cas du côté de Villefranche. Par contre, les températures restent fraîches, autour de 4 degrés. Au programme de notre émission, on va retrouver le prof Patrick pour sa rubrique socio-économique. On terminera ce rendez-vous en musique avec une sélection d'albums proposée par, par Bibi, aujourd'hui par moi-même. Mais avant ça, on va s'intéresser à nos invités du jour. Il y a moins d'un mois, on vous a présenté sur cette antenne deux jeunes entreprises très concernées par l'économie locale, avec des méthodes de distribution innovantes et un point commun supplémentaire, c'était le mot poule qui figurait dans le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, on va parler aussi d'une idée innovante pour faire fonctionner le local, c'est la poule qui chante. Un système de distributeur automatique de paniers et de produits locaux avec des casiers qui va s'installer prochainement à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Alors la nécessité de travailler avec les producteurs locaux, de faire marcher le circuit court, ça je le comprends. On en a d'ailleurs beaucoup parlé suite à la crise sanitaire mondiale qu'on a vécue. Mais que viennent faire les poules là-dedans? Pourquoi sont-elles omniprésentes? Ça je ne me l'explique pas. Quoi qu'il en soit, c'est un beau projet avec de belles valeurs dont on va parler aujourd'hui. La poule qui chante. Pour nous le présenter, on reçoit Marion Chaube et Mélanie Bazatol. Et pour commencer l'émission, un peu de musique. On écoute un live aujourd'hui. Philippe Catherine est l'invité de Vincent Delerme pour interpréter le morceau Poulet numéro 728120. Tous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Numéro 728120, poulet de Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, en Vendée, électrocuté, vidé, déplumé, conditionné, lavé, labellisé le poulet. Le 8 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher Chauve, rue de la Bastille, à Nantes. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet. Poulet. Poulet numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Catherine.
Merci. Un bisou à Monsieur Vincent.
Philippe Catherine, accompagné de Vincent Delerme sur Calade pour un morceau qui s'appelait Poulet numéro 728120, pour être tout à fait précis.
Ensemble sur Calade.
Allez, nos invités du jour d'Ensemble sur Calade sont Marion Chaube et Mélanie Bazatol. Elles vont nous parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle La Poule qui chante. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Eh bien, c'est un plaisir. La Poule qui chante, en résumé, avant d'en parler plus en détail, le projet, c'est quoi ? L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi ?
Alors, le projet, il est né en mai donc 2021, donc cette année. C'est un projet qui est né aussi d'une amitié. Ça, c'est très important de le notifier. C'est que Mélanie et moi, nous sommes rencontrés au lycée de Sibens, il y a une dizaine d'années. Et on a toujours eu envie d'entreprendre ensemble. Et le Covid est passé par là et on a décidé de sauter le pas pour être plus dans nos valeurs. Donc moi, je travaillais comme représentante commerciale dans l'agriculture et j'avais vraiment envie de partager mon expérience du coup auprès des agriculteurs, de valoriser en fait tout ce travail, ce savoir-faire et le territoire auprès de la population locale de Saint-Didier-sur-Chalaronne et du Val-de-Saône. Et pour Mélanie.
Et du coup, moi, j'ai travaillé dans la grande distribution et dans la satisfaction client. Et en fait, de par nos emplois du temps respectifs avec Marion, on avait du mal à se procurer des produits frais, locaux, dans nos magasins.
Ouais.
Du coup, c'est important pour nous d'ouvrir un concept qui s'ouvre à tout le monde, qui est vraiment ouvert de 6h à 22h pour accueillir tout type de population intéressée. Mmh.
Donc concrètement, la poule qui chante, pour les consommateurs, ça va être quoi ? Ça va être un lieu avec... un système de casier, si j'ai bien compris.
C'est ça, donc la poule qui chante Dry Fermier, donc c'est un local qui va être positionné à Saint-Didier-sur-Chalaronne sur un nouveau parking qui va être construit par la mairie. Donc dans ce local, on va retrouver une centaine de casiers automatiques et à l'intérieur de ces casiers, on va retrouver donc des produits frais locaux et de saison. Donc parmi les produits qu'on va retrouver, donc des fruits et légumes, mais aussi des produits laitiers, des produits carniers, de l'épicerie fine. Et un peu plus innovant, on va retrouver des plats traiteurs et aussi des kits à cuisiner.
D'accord.
Un peu comme Kitok ou HelloFresh. Donc
d'accord.
L'idée, c'est d'importer ce concept-là qui est plutôt citadin à la campagne.
D'accord. Et donc, vous avez dit au tout début, le Covid est passé par là. C'est-à-dire que cette crise qu'il y a eu, ça a été un moment qui vous a permis de vous poser, de réfléchir, de prendre le temps de faire quelque chose que vous aviez peut-être en tête depuis longtemps ?
Alors, avec Marion, ça fait longtemps qu'on veut monter une société. On hésitait sur le type de... On savait que ça serait autour de l'agriculture de par nos valeurs respectives. Et en fait, l'année dernière, je me suis retrouvée pendant 6 mois de l'année en chômage partiel.
Ouais.
Du coup, ça permet de faire le bilan du positif et du négatif de nos postes actuels. Et ça nous a permis de prendre le temps aussi. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps de monter une société.
Bien
et
sûr.
Ça nous a permis de contacter nos fournisseurs, de commencer à se lancer dans le projet. Ça a été intéressant pour nous.
Ouais. Et justement, vous parlez des fournisseurs. Vous avez fait le choix du local. C'est l'identité même de la poule qui chante, je crois.
Alors oui, donc la poule qui chante, ça représente plein de choses en fait pour nous. Ça représente donc le territoire, notamment les proches de la Bresse. Ça représente aussi le côté féminin aussi de la poule,
ouais.
Le côté aussi enfantin qu'on voulait, le côté un peu décalé qui donne envie de participer à une économie circulaire positive. Et la poule aussi, bah, c'est qu'on a aussi deux femmes aussi, donc c'est le côté vraiment féminin qui a été représenté. Et pour ma part, j'ai deux poules chez moi aussi, que j'ai achetées en fait suite à pareil au Covid. Ça m'a donné envie d'être encore un peu plus autonome, d'essayer de maîtriser un peu mieux ce que je mange. On est vraiment dans l'esprit de bien manger en fait dans la poule qui chante. Et vraiment d'économie circulaire, j'insiste vraiment là-dessus, parce que l'idée c'est vraiment qu'on puisse vivre sur un territoire.
Mmh.
Et on a la chance, que ça soit du coup en Calade ou dans le Val-de-Saône, du coup d'être très riche de nombreuses productions. Et c'est vraiment à valoriser.
Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Mélanie ?
Du coup, pour vraiment s'inscrire dans une démarche durable, on a décidé de sélectionner nos producteurs dans un rayon de 40 km autour du drive.
Ouais.
Donc pour l'instant, on a des producteurs qui nous ont déjà contactés, qui sont venus vers nous en étant intéressés par le projet. On cherche vraiment des producteurs qui sont impliqués, qui sont communicants avec les clients, avec nous. Et on attend, pour l'instant, on a fait une présélection qui n'est pas définitive. Donc on est toujours ouverte à ce que certains producteurs nous contactent directement.
Mmh. Et avec, vous avez cité une diversité de produits proposés, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de choses dans ces casiers. Ça représente combien de producteurs à peu près, qu'on se fasse une idée de combien il y a de collaborateurs derrière?
Alors là, l'idée, c'est qu'on reste quand même sur une sélection de collaborateurs pas non plus trop important. On va essayer de partir sur maximum une trentaine de producteurs dans un premier temps. Après, on aura des doublons, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, sur la partie œufs, et il faut toujours avoir deux fournisseurs parce que malheureusement, il peut avoir des accidents qui peuvent survenir, un problème varié. Donc voilà, il faut quand même qu'on sécurise l'approvisionnement. Mais encore une fois, comme disait Mélanie, on va vraiment chercher des gens qui soient très communicants sur le côté positif de l'agriculture. C'est très important pour nous.
Je crois que l'une des autres valeurs que vous avez, c'est la rémunération juste des agriculteurs. C'est un débat dont on entend parler depuis des années, et peut-être un peu plus en ce moment, c'est qu'ils puissent vivre de leur travail dignement. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que de par mon ancien métier, donc j'ai travaillé pendant 6 ans auprès des agriculteurs, et on voit bien que la rémunération, c'est un élément problématique, qu'il faut dire. Il y a beaucoup de promesses qui peuvent être faites par les politiques ou par d'autres entités. Donc là, l'idée, c'est d'apporter vraiment soit sa pierre à l'édifice pour que tout le monde soit rémunéré à sa juste valeur, mais que ça soit du coup les producteurs, mais aussi nous. Donc voilà, c'est toute une discussion là qui va être discutée dans les prochaines semaines pour trouver vraiment le juste équilibre. En fait, je pense qu'on s'est inspiré aussi de la démarche de C'est qui le patron, qui est une démarche vraiment à valoriser, à vraiment mettre en avant.
Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, C'est qui le patron?
Ok, bah du coup...
J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûre de bien savoir ce que c'est.
Démarche C'est qui le patron? Donc c'est une démarche qui existe depuis, 2 ou 3 ans, avec monsieur De Chavannes, qui du coup a rencontré des producteurs en Bresse qui étaient en grande difficulté, dû à une laiterie située en Bresse qui du coup était en difficulté financière importante. Donc 40 exploitations étaient au bord de la faillite. Et ce monsieur-là, qui avait travaillé plutôt dans la partie agroalimentaire, s'est rapproché donc de ces producteurs qui étaient en grande difficulté et a essayé de trouver une solution. Donc en fait, ils ont monté la marque C'est qui le patron, qui était au départ sur du lait, fait du coup en Bresse. Du coup, ça a été un franc succès dès le début parce que ce monsieur avait un carnet d'adresses qui était assez incroyable au niveau de la grande distribution, ce qui a permis de sauver en 6 mois 40 exploitations laitières bressanes. C'est une performance inégalée et d'ailleurs les chiffres sont incroyables. Ouais. Donc ils se sont développés sur d'autres produits par la suite.
Et l'idée du coup, c'est de plus être dépendant des distributeurs qui fixent les prix, mais de pouvoir les fixer soi-même, c'est ça?
Alors en fait, le prix est fixé avec le consommateur. C'est-à-dire qu'en gros, le consommateur avait des questionnaires à remplir en ligne. D'ailleurs, vous pouvez encore participer au développement de la gamme. Donc, chaque consommateur peut du coup participer à l'élaboration des produits selon cahier des charges. Et selon du coup, si par exemple pour les œufs on voulait être en plein air, et bien du coup, c'est des coûts supplémentaires pour le producteur qui doit être du coup impacté sur le consommateur. Donc, en fait, on est vraiment sur une démarche de consomme-acteur dans ce cas-là. Ce sont les consommateurs qui du coup décident du produit qu'ils veulent acheter par la suite.
Ça fait partie des valeurs qu'il y a derrière votre projet, la poule qui chante. Il y en a pas mal des valeurs. On a parlé de valeurs économiques. Il y a un côté écologique aussi, forcément, à être dans le local. Il y en aurait d'autres. Il y a la santé, peut-être aussi.
Oui, il y a forcément également un côté social, puisque on essaye de proposer aussi une alimentation plus saine et plus équilibrée aux gens. Et on souhaite aussi vraiment créer un lien avec eux. On pense souvent en fait que les casiers, c'est froid et qu'on rencontrera personne. Et du coup, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est les rencontrer. On sera à 80% du temps sur place, donc ils peuvent nous trouver sur place aussi. Et on crée un maximum sur les réseaux pour pouvoir se faire connaître, qu'ils échangent avec nous, qu'ils nous posent leurs questions. On est vraiment 100% disponible. On va également faire le marché de Noël de Saint-Didier-sur-Chalaronne pour qu'ils puissent nous rencontrer. Donc pour nous, c'est vraiment important.
Donc ce sera humain. C'est vrai que ça peut être une crainte en se disant, en parlant de casier, de se dire on va jamais voir personne et ça va être que des machines. Non, vous, vous serez présente, vous serez dans le coin.
Oui, tout à fait. On sera là en fait pour recharger. On aura notre bureau qui sera sur place.
Ouais.
Et du coup, ça nous permet vraiment d'échanger avec les gens s'ils ont des questions sur les produits, sur les fournisseurs.
Et justement, vous parlez de recharger. Comment ça se passe? Est-ce qu'on risque pas de tomber sur... Enfin, s'écharger, recharger régulièrement?
Alors, on a compté deux rechargements. En fait, on a rencontré d'autres gérants de drive avant de se lancer. Donc, ça nous a permis déjà d'évaluer la charge de travail. Donc, on compte environ deux rechargements par semaine, par jour, deux semaines. Et trois à quatre rechargements par jour le week-end.
D'accord. Sachant que plus le week-end, c'est...
Plus le week-end. Oui, c'est ouvert 7 jours sur 7, tout à fait.
Non, mais je veux dire, il faut en faire plus le week-end parce que les gens...
parce que les gens sont plus disponibles. D'accord. Et par exemple, un samedi de beau temps, vous allez sans doute faire un barbecue avec vos amis, donc vous allez peut-être passer au drive.
Il faudra vite aller chercher ce qu'il faut pour faire le plein très bien.
Et du coup, par rapport à ça, vous aurez également un lien sur notre site internet qui vous permettra de voir en direct les casiers qui sont toujours disponibles. Donc vous n'aurez jamais à vous déplacer pour rien.
D'accord. L'un des avantages aussi que vous citiez, c'est les horaires. C'est que je crois que ça ouvre à 6h du matin jusqu'à 22h le soir.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc l'amplitude horaire permet d'être vraiment complémentaire de tout ce qui est aussi l'offre existante autour de Saint-Dié-sur-Charonne. On retrouve du coup un marché le vendredi matin, mais aussi tout ce qui est producteur. Et donc nous, l'idée, on vient vraiment en complément apporter en fait une pierre supplémentaire à l'édifice pour que les gens consomment plus localement. C'est vraiment c'est cette amplitude d'horaire qui va vraiment être notre force, je pense, dans le projet.
Ouais. Justement, vous installez à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Je crois que vous avez le soutien de la commune ou il y a des gens qui vous suivent dans ce projet.
Alors, on a beaucoup de chance sur ce projet parce que on est soutenu à la fois donc par la mairie, mais aussi la communauté de communes Val-de-Saône Centre. On est aussi soutenu par la région, mais aussi le département et aussi par l'Europe avec le fonds Leader. Donc c'est un projet vraiment territorial qui est en train de se finaliser. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Tout n'est pas encore finalisé, mais on a vraiment un soutien des élus. Ouais. Et ça donne vraiment beaucoup de poids en fait, à ce projet. Et du coup, voilà, pour qu'il puisse rayonner et donner d'autres exemples par la suite. D'autres petits poussins, peut-être par la suite.
D'autres petits poussins. Je crois que vous avez aussi ouvert une campagne de financement participatif. Ça servira à financer quoi?
Alors, en fait, ça permettra de financer une partie des casiers. Ouais. Donc, c'est aussi pour faire de la communication, que les gens nous connaissent et surtout qu'ils découvrent les produits qui seront présents dans le drive. En fait, en contrepartie, on a fait le choix de présenter des paniers gourmands pour offrir à Noël. Sachant qu'on livre à domicile, donc les gens n'hésitent pas. Et voilà, on propose exclusivement des produits locaux, bien sûr.
Très bien. Et la campagne, elle dure encore quelques semaines, du coup, jusqu'à Noël?
Oui, on est à J-18 de la fin.
Très bien. Comment ça marche? Il faut aller sur un site internet
Oui, alors vous allez sur le site d'Ulule et vous tapez la poule qui chante. Vous tombez directement. Vous avez toutes les explications concernant le concept. Ça vous permet d'avoir davantage d'informations. Vous pouvez nous poser des questions et acheter vos contreparties directement sur le site.
Bon, très bien. Moi, j'ai une dernière question existentielle. Pourquoi la poule? Alors, vous nous avez un petit peu expliqué pourquoi la poule au début. Pourquoi elle est tant à la mode, la poule, en ce moment?
Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement autour de la poule, là, sur le Val-de-Saône, Calade, qui est assez incroyable. Mais c'est positif, parce que du coup, nous sommes en fait que des porteuses, des femmes, du coup, d'une trentaine d'années à porter ce projet. Et moi, je vois ça que du positif. Ça montre, du coup, l'entrepreneuriat féminin. Et je souhaite vraiment qu'on réussisse toutes dans cette démarche, qui a vraiment des valeurs écologiques, économiques et sociales qui sont vraiment importantes. Et vive les poules.
Vive les poules, effectivement. Pour vous retrouver, pour vous suivre, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi pour suivre l'aventure qui commencera en mars.
On est partout.
Vous êtes partout.
Non, on est sur Facebook, Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur le projet.
La poule qui chante, tout simplement. Et l'ouverture des casiers, les premiers casiers, ça se passera en mars, c'est ça?
C'est ça, rendez-vous début mars pour l'inauguration. On fera des communications pour faire un grand événement public disponible pour tout le monde.
Et vous serez invité, bien sûr.
Je viens de penser, on n'a pas forcément expliqué quelque chose d'essentiel, le fonctionnement de ces casiers. Voilà, c'est des machines, peut-être que ça peut inquiéter certains auditeurs. Je crois que c'est simple quand même.
En fait, c'est très simple. Vous rentrez dans le magasin, vous choisissez les casiers que vous souhaitez. Ouais. En fait, vous avez une borne de paiement tactile et vous notez le numéro des casiers, vous payez en carte bleue et les casiers s'ouvrent.
Voilà. Très bien. Et je crois qu'il y a une petite originalité chez vous, c'est qu'il y a même des casiers avec des recettes à l'intérieur.
Exactement. En fait, on va vous proposer une recette, par exemple, pour 4 personnes, des pâtes à la carbonara, par exemple, et vous aurez votre fiche recette avec votre panier directement.
Il y a les ingrédients et, la petite fiche recette.
Exactement, pour vous simplifier la vie.
Super. Merci beaucoup à toutes les deux, donc Marion Chaube et Mélanie Bazatol. Je rappelle, pour vous suivre, vous découvrir, ça se passe sur La Poule qui chante. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Ensemble sur Calade.
J'ai pas trouvé de morceau qui s'appelle La Poule qui chante. Par contre, j'ai trouvé un titre qui s'appelle Coq l'a chanté. Ça nous vient des Caraïbes. C'est signé Raphaël Zachil et le Super Combo.
Coq l'a chanté. C'est pas oublié, c'est Bémao qui t'est gamené. Tous les siphons t'es déjà content, passion déjà parti tout vent. À 5 et le matin, Coquelin levé, et lui mettait lui qu'à chanter. Les dimanches après, il y a marché, on coûte ses pompatis, il bien gagné. Passez plus fort. On coûte ses bons, il bien gagné. On coûte ses bons, tout le monde est la Gauloise champion des Antilles. Super combo, qu'a supporté. Super combo, qu'a appuyé. La Gauloise champion des Antilles. Appuyez. Thank you.
Bon, j'imagine que vous êtes détendu maintenant à l'écoute de ce titre. Coq l'a chanté, c'était Raphaël Zachille et le super combo.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et oui, on retrouve tout de suite le prof Patrick dans Ensemble sur Calade. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Prof Patrick, on vous a pas bien entendu. Est-ce qu'on... Oui, et là, on doit vous entendre correctement.
Très bien.
Excuse-moi.
Vous, salut Mathieu, salut les auditeurs.
Parfait.
Comme Cyrano de Bergerac.
Bon, alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui maintenant qu'on vous entend bien?
J'ai évoqué Cyrano, je suis pas très très loin puisqu'on va parler de Don Quichotte.
Don Quichotte, d'accord.
Non, on va parler en fait d'une sorte de Don Quichotte français.
Ouais.
En beaucoup moins classe, beaucoup moins sympa.
Qui se bat contre des...
Moulins à vent, tu as tout compris. Don Quichotte se battait contre des moulins à vent, des ennemis imaginaires. Eh bien, le nôtre, il fait un peu pareil. Alors, tu vas deviner qui c'est. C'est un monsieur qui est ministre de l'Éducation nationale.
Très bien, je vois. Okay.
Il s'appelle Jean-Michel Blanquer. Oui, il a un petit boulot quand même. Hein. Ça n'a pas l'air de trop l'occuper parce qu'il passe beaucoup de temps à nous parler de ses obsessions, le ministre, monsieur Blanquer. Alors, ses ennemis imaginaires à M. Blanquer, c'est qui, c'est quoi? Ce sont les islamo-gauchistes et le wokisme. Bon, autant te dire que c'est un peu les mêmes, hein, quelque part, tu verras, derrière les définitions. Ça a commencé avec les islamo-gauchistes en octobre 2020, donc il y a environ un an. Jean Mimi était convaincu que la France était menacée par les islamo-gauchistes et il a donc commandé, parce que commander, il aime bien ça, au CNRS, c'est-à-dire à la recherche scientifique française dans tout ce qu'elle a de plus sérieux et public, une étude sur l'islamo-gauchisme à l'université. Bon alors, le CNRS a assez vite répondu « T'es gentiment Jean-Mimi, mais nous on est des scientifiques et du point de vue de la science, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un sobriquet de journaleux à deux balles. » Et puis mon Jean-Mimi, t'as entendu parler du principe des libertés académiques? Ça veut dire que le politique ne doit pas interférer dans le travail des scientifiques. Donc tu comprends, Jean-Mimi, ça s'appelle un principe démocratique. Voilà. Donc il a remis ça dans sa poche. Mais un an après, Jean-Mimi ne désarme pas, parce que dès qu'on touche à ses obsessions, je dirais sa rationalité, elle laisse un peu sur le bas-côté, et elle laisse la place au biais psychologique dont on a parlé à plusieurs reprises, hein, ici ou ailleurs, à Poker Menteur notamment. Donc Jean-Mimi, il reprend ça un petit peu après avec le wokisme. Mais avant de parler du wokisme, puisque c'est la deuxième acception de la même chose quelque part, on va peut-être conseiller à Jean-Mimi, Jean-Michel Blanquer, donc d'écouter notre Poker Menteur du mois de septembre, notre émission du mois de septembre qui était consacrée à l'intersectionnalité. Parce que comme ça, il apprendrait que cette nouvelle discipline en sciences sociales explore les situations où des personnes se trouvent confrontées de façon simultanée à divers types de discrimination. Discrimination en raison de leur profession, ou en raison de leur couleur de peau, ou en raison de leur sexe, ou en raison de leurs orientations sexuelles. Et il apprendrait que l'intersectionnalité, ce n'est pas une insulte, c'est une discipline scientifique légitime et respectable. Mais, que cette discipline se double d'une pratique militante, dont certains membres font parfois dans le rentre-dedans, il ne faut pas se le cacher.
Ouais.
Alors, ce n'est pas des islamo-gauchistes, ce sont des militants de diverses causes qui font partie de cette vaste mouvance de l'intersectionnalité. Et on n'est pas obligé de partager tous leurs points de vue. Par contre, la démocratie, c'est aussi accepter le débat. Voilà.
Et le point de vue des autres.
Exactement. Donc, Jean-Mimi, un an après, il embraye et il repart avec le wokisme. Alors, ça s'écrit W-O-K-I-S-M-E, pour ceux qui ne comprendraient pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben devinez quoi, c'est encore un sobriquet de journaleux à deux balles. C'est dérivé de l'anglais wake, qui veut dire éveillé. Au départ, c'était utilisé aux États-Unis, mais il y a longtemps, hein, dans les années 70, c'est pas d'hier, par des militants qui s'auto-désignaient en tant que personnes ayant conscience de discriminations diverses qui pesaient sur elles. Mais ça fait belle lurette qu'elles ont arrêté, ces personnes, ces militants, qu'ils ont arrêté d'utiliser ce terme aux États-Unis comme ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est devenu une insulte, en fait.
Ah ouais.
Ouais. C'est une insulte qui est proférée contre ces militants par le camp opposé. Alors, aux États-Unis, ce sont les c'est le Parti républicain, notamment les plus réactionnaires. Et plus récemment, en France, c'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire la droite réactionnaire qui va du Figaro à Valeurs Actuelles en passant par CNews. C'est vraiment un truc qu'on entend parler partout, hein, le wokisme. La France est menacée, on est dans Don Quichotte à fond la caisse.
Ouais, et c'est une menace, oui, c'est ça souvent.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment la menace principale que nous vivons, hein, le réchauffement climatique. Tu rentres chez toi, on est menacé par le wokisme. Alors, un exemple pour illustrer l'usage médiatique qui est fait de ce nouveau moulin à vent. D'accord ? Moulin à vent en référence à Don Quichotte. Le Figaro a récemment révélé que l'université de Princeton aux États-Unis, qui fait partie de l'élite des universités américaines, Princeton a décidé de rendre facultatif le fait d'avoir fait latin ou grec pour entrer dans son département lettres classiques. Scandale ! Mais c'est un scandale ! Voilà. Le Figaro nous dit que c'est en raison d'accusations par les militants du wokisme selon lesquelles la culture gréco-romaine serait coupable d'avoir été complice sous diverses formes d'exclusion, y compris d'esclavage, de ségrégation, de suprématie blanche et de génocide culturel. Et donc, les affreux militants du wokisme auraient contraint Princeton à prendre cette décision. Donc c'est comme ça que c'est présenté, ça fait la une médiatique l'espace d'une journée ou deux. Et après, on passe à autre chose, bien sûr.
Ouais.
Il n'en faut donc pas plus à Don Quichotte Jean Mimi pour lancer une croisade sur le mode « Sauvons notre civilisation » via une déclaration conjointe des ministres européens chargés de l'éducation visant à renforcer la coopération européenne autour du latin et du grec ancien, fermez les guillemets. Déclaration signée par les ministres français, donc M. Blanquer, par le ministre italien, le ministre chypriote et le ministre grec. Tous chargés d'éducation. Encore, Jean Mimi s'attache soigneusement dans cet exemple-là, comme un an plus tôt, à éviter de demander leur avis aux universitaires et aux scientifiques. Hein, bien sûr, tu t'en doutes bien. C'est pourquoi on va lui proposer d'écouter ce qu'en pense le jeune auteur de la chaîne YouTube Linguisticae. C'est une chaîne qui parle de linguistique et qui est donc concernée et compétente pour parler du grec et du latin.
Ouais.
Alors, il a fait, l'auteur, une vidéo là-dessus, que je mettrai en lien, comme d'habitude. Et c'est très intéressant, parce qu'on y apprend que l'université de Princeton a pris cette décision pour des raisons économiques. Oui, je vais vous expliquer ça. En fait, ils risquaient de plus avoir assez d'inscrits en lettres classiques. Ils ont été obligés pour des raisons économiques, parce que s'ils n'ont plus assez d'inscrits, le département ne se finance plus, et les universités privées, ça rigole pas, il faut quand même qu'il y ait un minimum de rentabilité. Alors, je vous explique, chers auditeurs. Quand leurs enfants sont au lycée, les parents très aisés, américains, adoptent des stratégies d'évitement pour que leurs enfants ne fréquentent pas la racaille prolétaire. Mmh. D'accord ? Et pour ça, une idée parmi d'autres, c'est de leur faire faire du grec et du latin. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a que les écoles privées qui sont payantes et qui sont très très chères, c'est pas comme en France, qui proposent du grec et du latin. Attention, c'est pas beaucoup de monde, hein, c'est seulement 15% les écoles privées, 15% des élèves, du corps des élèves d'une génération. Sauf que... Eh oui, sauf que ça faisait longtemps. Sauf qu'une fois passés aux études supérieures, ils n'en ont plus rien à branler du latin et du grec. Ben ouais, parce qu'il n'est pas question que leur gamin fasse lettres classiques pour devenir prof. Non mais quelle horreur, hein ? Oh. Non, non, les enfants des classes aisées, ils vont faire du droit, ils vont faire médecine, ils vont faire des MBA pour être des hauts dirigeants de grandes entreprises américaines ou autres. Et c'est comme ça qu'ils vont rester dans l'élite et gagner plein de thunes. C'est pas en faisant lettres classiques, c'est pas en étant prof.
Pas avec le grec ancien, quoi.
Eh ben ouais, bien sûr. Résultat, si le département lettres classiques de Princeton veut survivre, il n'a pas le choix. Il doit ouvrir ses rangs aux élèves n'ayant pas fait latin ou grec dans le secondaire. Parce que ceux qui en ont fait, ils risquent pas de venir. Sauf une infime minorité. Alors, pour finir, je reviens quand même sur la vidéo de Linguisticae, du jeune linguiste, là, qui est très intéressante, qui explique tout ça, que vous avez en lien, que vous aurez en lien dans le podcast. Vous remarquerez le ton très énervé du jeune linguiste qui fait la vidéo. Pourquoi il est énervé ? Faut le comprendre, il n'a pas une mémoire de poisson rouge, lui. Hein ? D'accord ? Et il se souvient très bien que ces 20 dernières années, ceux qui, en France, ont pilonné l'enseignement du grec et du latin, ce sont d'abord le gouvernement de M. Sarkozy, donc pas très éloigné en termes de rang de proximité intellectuelle de M. Blanquer, puis le gouvernement de Hollande sous Najed Vallaud-Belkacem. Et ensuite, quand notre ami Blanquer est arrivé à ses fonctions, quand Macron est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il n'a pas bougé une oreille, il en est resté là, il n'a rien changé. Alors oui, je sais Mathieu, tu vas me dire, ouais mais le pauvre monsieur Blanquer, il n'a pas les moyens, son budget il est bien occupé par tout un tas de dépenses, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? L'argent tombe pas du ciel, etc., etc. Petite info Mathieu.
Ouais.
Jean-Mimi Blanquer vient d'annoncer tout fiero qu'il a économisé 75 millions d'euros sur le budget 2021, qui n'a pas été dépensé. Spéciale dédicace aux profs de latin et de grec qui n'ont pas de budget pour ouvrir des classes malgré la demande massive des élèves. J'en ai terminé.
Très bien, merci beaucoup prof Patrick, à bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Bon, un peu de musique pour faire passer la pilule. Voici Gorillaz sur Calade avec Feel Good Inc. Bien sûr, les Gorillaz sur Calade avec l'un des titres qui les a fait découvrir, c'était Feel Good Inc.
Ensemble sur Calade.
Allez, aujourd'hui, pas de coup de cœur du disquaire, c'est donc moi qui vais vous présenter un album à écouter de toute urgence. J'ai regardé ce qui était sorti récemment, j'ai écouté plutôt, et j'ai avec beaucoup de joie découvert qu'un grand artiste du paysage français publiait son dernier projet, ça s'appelle Le Président de la Fête, et c'est le nom du dernier album de Patrick Sébastien dont est extrait ce titre, Les Pouces.
On a les pouces qui poussent pour dire qu'on est heureux.
Alors ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous parler de Patrick Sébastien aujourd'hui, mais ça m'amusait de vous en passer un extrait. J'aurais pu par contre vous parler de la jeune chanteuse Angèle, la chanteuse belge, qui sort 95 aujourd'hui, le jour de ses 26 ans. On lui souhaite donc un joyeux anniversaire. Album sur lequel figure notamment un titre qu'on risque d'écouter prochainement en boucle sur toutes les radios. Ça s'appelle Démon et ça se passe avec le rappeur Damso.
Pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, c'est pour rappeur. Non, pour moi, depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'prie un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis là-bas.
Angèle et Damso, donc qu'on entend avec le titre Démon, Bon, extrait de l'album 95 qui est paru aujourd'hui, mais c'est pas de cet album-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Non, moi j'ai choisi de vous parler d'un album d'un Américain, Tom Morello, connu notamment pour avoir été le guitariste du groupe Rage Against the Machine. Alors Rage Against the Machine, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Voilà, on est sur ce genre de musique. Là, pour l'instant, c'est plutôt cool, mais ils ont fait des choses plus énervées. Et donc, Tom Morello, c'est le guitariste de ce groupe qui a eu énormément de succès jusque dans les années 2000. Et il a sorti un album en 2018, album solo appelé The Atlas Underground. Pas si solo que ça, l'album, puisqu'il invite des artistes différents sur chaque titre. Et il se balade dans les univers musicaux qu'on ne lui soupçonnait pas, des choses très électriques, proches de la techno, des ballades folk, du rock, bien sûr, dans tous ses états, et des titres à la pop surprenante venant d'un guitariste qui a fait des morceaux très très énervés. Il réitère le procédé en octobre dernier avec The Atlas Underground Fire et des titres et aujourd'hui sort deux mois plus tard The Atlas Underground Inundation, après le Fire, l'inondation. C'est toujours la même recette qui consiste à, semble-t-il, ne pas avoir de recette. Il invite des artistes et il explore ce qui est possible de faire musicalement avec eux. Ça part dans tous les sens et pourtant ça réussit à rester cohérent et à faire un vrai album qui doit s'écouter en entier et pas juste une compilation de collaborations rêvées de Tom Morello. Sur ces trois albums là, il a notamment collaboré, parce que ce serait bien de les citer, ces artistes, avec Bruce Springsteen, le boss, Mike Posner, Damian Marley, le fils de Bob Marley, Knife Party, le célèbre DJ, Portugal The Man, Steve Aoki, DJ également, Gary Clark Jr., petit prodige du blues, le rappeur RZA dont nous a parlé Peach il y a quelques semaines, et récemment, sur le dernier album, on retrouve notamment Ben Harper ou encore Rodrigo y Gabriela. Le morceau que je vais vous faire écouter, réuni avec Tom Morello, qui n'est pas le dernier des guitaristes, deux autres virtuoses de cet instrument, Alex Lifeson du groupe Rush et Kirk Hammett de Metallica. Pour compléter l'équipe, on trouve un producteur d'électro, Dr. Fresh. Voici donc le morceau I Have Seen The Way, issu du dernier terrain de jeu de Tom Morello, l'album The Atlas Underground Inundation, et c'est super chouette. Voilà, c'était la grande messe des guitaristes, si on peut dire. Tom Morello, Alex Lifeson, Kirk Hammett et Dr. Fresh sur le titre I Have Seen The Way, issu de l'album The Atlas Underground Flood, puisque c'est ce qui veut dire inondation. Je vous l'avais traduit à la base. Voilà, on est totalement complet cette fois.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez bien entendu en podcast sur radio-calade.fr, en rediffusion lundi matin à 10h. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi à 12h12 pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt, tout simplement. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.